Ouais. Eh bien, bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Donc, ce soir, je vous apporte la parole infaillible. C'est ça qui est triste et bien quand même. C'est que quand quelqu'un apporte la parole de Dieu, c'est sa façon de voir la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Le prédicateur, c'est juste un outil. On peut mettre beaucoup d'emphase sur le prédicateur, puis on peut se tromper aussi, et lui aussi peut se tromper. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de bien écouter, mais de juger. C'est bien, hein? Donc, jugez-moi. Non, on juge l'enseignement. C'est important de bien écouter et de comprendre à travers ça que la personne qui apporte un enseignement, c'est sa façon de comprendre les choses et que parfois, on doit faire attention, hein? Et il n'y a jamais personne qui va apporter une parole infaillible si ce n'est Dieu lui-même. Donc, merci Seigneur pour cette belle après-midi où on a pu partager l'Évangile. Et puis, ce soir, Benjamin m'a demandé d'apporter un enseignement sur la personne de Jésus. Je dis, seulement ça? C'est quelque chose. Donc, j'ai choisi quelques thèmes. Dans le fond, on ne peut pas parler de Jésus en quelques minutes, même en quelques heures, même en quelques jours, ça ne serait pas suffisant. Jésus, c'est le centre même hein, de toute la Bible. Même l'Ancien Testament, c'est pas juste Dieu le Père, c'est Dieu, le Dieu Trinité, le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit aussi. Donc, pour commencer, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'il est si important de bien comprendre l'enseignement de Jésus-Christ, son enseignement à lui, avant de voir sa personne. Aujourd'hui, on a partagé l'Évangile avec les gens, puis les gens ils disaient, ben moi je suis athée, moi je suis agnostique, et puis j'ai eu toutes sortes de commentaires, c'est assez varié même. Hein? Et puis, des fois les gens disent, ah oui, je crois en Jésus. Puis quand on parle avec eux, on s'aperçoit que, oups, soit qu'ils ne croient pas ce qu'il a dit ou ils n'ont pas écouté ce qu'il a dit. Parce qu'on voit qu'ils ne mettent pas en pratique ce qu'il dit. Ils n'ont pas mis en pratique. Jésus a demandé à ses disciples, « Et d'après vous, qui suis-je? » Il a posé la question à ses disciples après un certain temps qu'il a vécu avec eux et qu'ils l'ont vu faire des miracles et des choses extraordinaires. Ça, c'est dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 16. Et les disciples ont répondu que, dans le fond, c'était, ils ont vu ce qui était Jésus. Mais quand il a répondu, on va tourner ensemble dans Matthieu, au chapitre 16, ça va être plus précis. Ouais, je vais devoir mettre mes lunettes. Chapitre 16, verset 15. Verset 15, il dit, « Et d'après vous, qui suis-je? » leur dit-il. Et Simon-Pierre, répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et on pourrait dire, « C'est normal qu'il ait dit ça. » Mais non, ce n'était pas tout à fait normal, parce que Jésus, il a repris la parole au verset 17, il dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Donc, il y a même Pierre, après avoir vu Jésus, vu ce qu'il a fait, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père qui lui a parlé, qui a révélé qui était vraiment Jésus. Donc, on a besoin, pour connaître Jésus, de plus que nos propres connaissances, plus qu'une étude, plus que juste chercher à comprendre, ça prend l'Esprit de Dieu. La personne de Jésus est tellement grande et tellement, je pourrais dire, surnaturelle, que notre propre intelligence n'est pas suffisante pour bien le comprendre. On a besoin de quelque chose de plus. On pourrait essayer de convaincre les gens hein, de l'Évangile, on pourrait essayer de convaincre de salut, mais c'est l'Esprit qui vient convaincre lui-même. Le premier point par rapport à ça, dans notre introduction ce soir, Les gens de l'époque de Jésus ont été étonnés de son enseignement. On peut remarquer ça dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 7. « Car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. » Jésus a parlé avec une autorité, mais pas une autorité humaine. Encore là, il était avec l'Esprit de Dieu. Ensuite de ça, son enseignement a bouleversé le monde. Il y a 2000 ans, et encore aujourd'hui, il fait parler de lui, et on en parle encore de Jésus. Ce n'est pas un personnage ordinaire. Vous savez, on peut parler de Socrate, Platon, et puis on a trouvé juste quelques documents contradictoires et partiels de ces grands philosophes. Tandis que Jésus, on a tellement de textes qui parlent de lui, et même des gens qu'il détestait en ont parlé. Tu sais, quand ton ennemi parle de toi, mais il parle de toi en vantant les choses que tu as faites, à quelque part, tu dis « Oups, il a vraiment fait ça ». Mais les pharisiens parlaient de Jésus, puis ils voulaient lapider parce qu'ils disaient que lui-même était Dieu. Donc, quand tu veux essayer de faire croire quelque chose aux gens, il faut aller voir dans la parole de Dieu un petit peu plus en profondeur. On va voir un petit peu plus tard là, la divinité de Christ. Il y a un autre point aussi. Jésus a dit de lui-même qu'il est la vérité, qu'il est la vie, le chemin, qu'il est la parole, qu'il est la porte, qui est l'alpha et l'oméga. Qui a dit ça à part Jésus dans le monde? Qui pourrait dire « Je suis la vérité » ? Il pourrait peut-être dire « Je dis la vérité » ou « Je vais vous montrer la vérité », mais Jésus a dit « C'est moi la vérité ». Ne cherchez pas « C'est moi la vérité ». C'est assez spécial. Quand on y pense, là, c'est assez unique. Et si quelqu'un, je l'ai dit tantôt, si quelqu'un dit qu'il croit en Jésus, il est obligé d'aller chercher ses paroles pour dire qu'il y croit. Et souvent, on rencontre des gens, comme on a vu cet après-midi, qui pensent qu'ils croient en Jésus, mais dans le fond, ils n'ont pas été chercher ses paroles. Qui est la personne de Jésus? Ça, c'est tout un défi, mais on va se concentrer sur certains points, parce que dans le fond, le but, c'est de voir qu'est-ce qui, dans la personne de Jésus, a besoin d'être cerner, être mis de l'avant pour qu'on puisse être capable de partager l'Évangile aussi, à notre époque. Thomas a répondu, dans Jean au chapitre 20, Jésus a répondu à Thomas. Non, excusez. C'est Thomas qui a répondu à Jésus. Il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu », en parlant de la personne de Jésus. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Thomas n'a pas dit, comme certains disent, en regardant Jésus, « Mon Seigneur », en regardant vers le ciel, « Mon Dieu ». Il parlait à la même personne. Pour lui, Jésus était son Seigneur et son Dieu. Et c'était clair, c'était un homme qui était devant lui, et pourtant, il l'a appelé son Dieu. Il a réalisé quelque chose, encore là, avec sûrement l'aide du Saint-Esprit, parce que ça prend plus que ça. Jésus est une personne de la Trinité. Ça, c'est important parce que si on partage l'Évangile et on dit qu'on est chrétien, on a un problème si on ne croit pas à la Trinité. Puis ça, c'est pas... On a beau dire, bon, le mot Trinité n'est pas dans la Bible et tout ça. Il y a tellement de passages, je vais vous donner les feuilles plus tard, mais vous pourriez juste faire une petite étude de quelques... C'était pour dire quelques heures, mais... Puis vous auriez des versets et des versets et des versets sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Juste dans la création du monde. Ça dit, créons l'homme à notre image. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Pourquoi il n'a pas dit, à mon image? Il ne parle pas aux anges, là. Il n'a pas créé l'homme à l'image des anges. Il a créé l'homme à leur image. Et c'est spécial. Ça, c'est dans Genèse, au chapitre 1, verset 26. Il y a aussi dans Jean 1, verset 1, qui dit, « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » On comprend aussi que dans Jean, la parole, c'est Jésus. Et si Jésus était là avant même la création du monde, c'est beaucoup plus que juste un homme ou un prophète. Jésus aussi a dit à ses disciples, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham, pas à ses disciples, aux pharisiens, avant qu'Abraham soit né, je suis. » Donc, il y a plein de passages comme ça qui disent que Jésus, ce n'est pas juste un homme, c'est même plus qu'un ange. Il y a Jean chapitre 10, verset 33 et plein d'autres versets que vous pourrez lire par après. Mais oui, c'est une personne de la Trinité, mais c'est aussi, il est en même temps Dieu et homme. Et ça, c'est important. Parce qu'on a toutes sortes de doctrines qu'on fait face dans notre société. Des gens qui ne croient pas en la divinité de Christ, des gens qui ne croient pas qu'il a souffert aussi. Parce que s'il est pleinement Dieu, mais il n'est pas humain, pour lui être crucifié, c'est juste faire semblant de souffrir. Mais il a vraiment souffert parce qu'il était vraiment 100% humain. Et ça, ça a été, dès les débuts de l'Église, un gros débat parmi les chrétiens. J'ai un texte qui dit ici, le concile de Chalcédoine en 451 après Jésus-Christ amena les chrétiens à reconnaître l'union hypostatique. L'union hypostatique, c'est le fait qu'il est Dieu et homme en même temps, sans annuler l'un ou l'autre. Christ, le Fils, reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation, la différence des natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union, la propriété de l'une et l'autre nature étant bien plutôt gardée et concourant en une seule personne. Et ça, ils ont dû écrire ça quelque part pour rassembler l'Église puis dire, écoutez là, c'est pas écrit, mais on le voit. On le voit dans sa vie, on le voit dans sa résurrection, on le voit dans sa mort, qu'il devait être Dieu et homme en même temps. Parce que si ce n'est pas pleinement Dieu, il serait menteur, il s'est présenté comme fils de Dieu, donc Dieu. Les pharisiens même ont voulu, les pharisiens ont voulu le lapider, comme j'ai dit tantôt, il se proclamait lui-même Dieu. Donc il était Dieu, sinon il aurait été menteur. S'il n'était pas pleinement homme, son sacrifice serait nul au point de vue du sacerdoce, parce que dans l'alliance que Dieu a faite avec les hommes, ça prenait un sacrifice, et ça prenait un sacrificateur humain. Ça ne pouvait pas être un ange. Il fallait que ce soit un homme qui fasse ce sacrifice. Puis même ce sacrifice-là ne pardonnait pas les péchés, c'était juste l'image de ce que Jésus était pour faire. Et dans Hébreux 5, versets 1 et 10, à 10, on voit le genre de sacerdoce que a Jésus. Il est un souverain sacrificateur. Dans 1 Timothée, au chapitre 3, ça dit, « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Donc, c'est pas d'hier que la personne de Jésus et son enseignement est remise en question. Parce que c'est la base. C'est la base de la foi. Donc, Jésus est Dieu et homme. Il est, on l'a dit tout à l'heure, une des personnes de la Trinité. Il est aussi prophète. Dans Matthieu 21, ça dit que tous le reconnaissaient comme prophète. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, dans Éphésiens chapitre 2, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Parce que Jésus a prophétisé des choses, c'est évident qu'il est prophète. Je pense que c'est un des aspects de sa personne que les gens ne remettent pas en question, justement. Mais le fait qu'il était Dieu, ça, c'est souvent attaqué. Puis un point qui est important, qu'on oublie des fois, c'est le fait qu'il était roi des rois. Pas qu'on l'oublie parce qu'on veut l'oublier en tant que chrétien, mais on l'oublie par notre conduite. Quand on remet en question, pas qu'on remet en question, mais qu'on fait notre propre volonté, on met de côté le fait qu'il soit notre roi. Le roi des rois, c'est une souveraineté sur toute la création. C'est clairement établi dans la parole de Dieu, dans 1 Timothée chapitre 6, dans l'Apocalypse au chapitre 17, chapitre 19. Jésus s'affirme lui-même roi. Il répondit à un moment donné dans Jean au chapitre 18, il a dit à Pilate, je crois, je ne me rappelle pas trop, il dit, tu le dis, je suis roi. Il ne s'est pas défendu, il dit, non, je ne suis pas roi, moi, non, non, il est roi. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Dans Jean au chapitre 18. Mais son règne sur terre approche. Puis pour l'amener, ce règne-là, il faut qu'il soit dans notre cœur. Si son règne est dans notre cœur, si on est à son service simplement, en tant que serviteur de Dieu, mais son règne commence dans nos vies. Jésus est la parole de Dieu. Hein? J'ai dit tout à l'heure. La parole vivante. Et souvent, les gens, ça c'est un autre enseignement qui peut être un petit peu tordu des fois. Les gens disent, je crois à Jésus, parole vivante, mais je ne crois pas à la parole de papier. Puis là, ils font un peu ce qu'ils veulent avec les enseignements de Jésus. Il y a des auteurs, je sais, dans les époques de... C.S. Lewis, c'est quand même un chrétien qui a écrit des livres assez importants. Mais lui-même considérait que Jésus, parole vivante, était différent de la parole de papier. Puis, il n'était pas tellement à l'aise avec certains passages de la Bible. Quoiqu'il croyait quand même en Dieu. Là. Puis, on le voit dans ses écrits, évidemment. Mais il y avait des points difficiles que, dans sa vie où il s'accrochait. Puis, pour l'aider à accepter ça, il se disait, je crois en la parole vivante, parole de Jésus. Et non pas la parole de papier à 100%. C'est une chose, mais la parole, la Bible, comme on l'a aujourd'hui, c'est un texte qui a tellement été mis à l'épreuve à travers les temps qu'on n'a pas à soucier. C'est important là, de considérer que c'est un livre qui doit être fiable, mais il est fiable. Il est tellement fiable que à certaines époques, les gens se disaient, on remet en question ci, on remet en question ça. Il y a eu les critiques, la haute critique allemande où ils remettaient tout en question l'Ancien Testament, là, les textes qui étaient écrits par différents auteurs et tout ça. Puis ça n'a pas servi à grand-chose. Après un certain temps, les gens se sont rendus compte que ça n'a aucun bon sens. Ce qui est important, c'est de réaliser que, avec toutes les fouilles archéologiques qu'on a fait aujourd'hui, le texte biblique est vraiment, vraiment sérieusement solide. Et on peut le mettre vraiment devant nous comme quelque chose qui va nous servir. Donc, Jésus, si on veut partager la foi avec quelqu'un qui se dit chrétien, ou en tout cas dans une religion quelconque, si on veut aller avec un point vraiment important, ce serait la personne de Jésus. Et s'il est vraiment Dieu, si pour cette personne-là, il est vraiment le roi des rois, s'il est vraiment la parole vivante, est-ce qu'on croit à ses paroles en tant que prophète? Est-ce qu'on croit qu'il est... que son sacrifice a servi à quelque chose. Parce que on peut dire, ça s'est fait il y a 2000 ans, donc ça n'a pas nécessairement sauvé les gens dans l'Ancien Testament. Mais oui, les gens de l'Ancien Testament sont sauvés. Ceux qui ont cru en Jésus en regardant en avant sont quand même sauvés. Donc l'action qu'il a fait sur la croix quand il a dit « Tout est accompli », c'est pas seulement « Ma journée est finie », là. C'est pas juste... mes 30 quelques années sur la terre, si c'est terminé, je vais ressusciter, wow, je prends un break après. Là. C'est pas ça. C'est une action qui s'est faite à un moment dans l'histoire, puis qui a eu comme des retombées dans le futur et dans le passé. C'est intemporel, l'action que Jésus a faite sur la croix. Et pas juste pour le salut, pour plein de choses. Parce que si on va juste étudier le passage quand il dit il est descendu au séjour des morts, puis il a distribué des dons aux hommes, on parle juste des dons ministères. Déjà en partant, Jésus a fait quelque chose. Là. Il a fait une action qui a une portée immense encore aujourd'hui. En quelques temps seulement, Jésus a fait exploser son ministère, son œuvre. Puis on pourrait en parler ça longtemps. Il y a plein de choses dans la Bible qui nous montrent à quel point son action a été puissante à ce moment-là. Et on arrive au point 3, justement, son œuvre. Qu'est-ce que ça implique, le fait que Jésus soit encore à l'œuvre aujourd'hui? Parce qu'il est encore à l'œuvre. Il y en a qui peuvent dire, Dieu a créé, pendant 6 jours, il a créé le monde, puis après ça, c'est fini, il ne fait plus rien, là. Il n'y a plus de guérison, il n'y a plus de dons, il n'y a plus de puissance. Mais voyons, si Dieu se retirait de sa création, on retomberait tout en poussière, ce serait fini. Mais c'est plus que ça. Jésus dit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 5, il dit, « Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Moi aussi, je suis à l'œuvre. » Puis, je crois que ce n'était pas juste du temps où il était sur la terre. Il était là au moment de la création. Tout a été fait par elle, en parlant de la parole qu'on a vue dans Jean, chapitre 1. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole, logos, la parole de Dieu. Il n'y a rien de ce qui a été fait sans elle. Même les anges, qui sont des créatures de Dieu, ont été créés à un moment donné. On ne sait pas quand, hein? C'est pas écrit. Mais on sait qu'ils ont été créés à quelque part à un moment donné. Ils ne sont pas éternels comme Dieu. Même eux, Jésus était là. Ils ont été créés. Si on lit la parole, on la comprend telle qu'elle, là. Tout ce qui a été fait par la parole, par Jésus. La rédemption, le rachat que Jésus a fait, hein, on en a parlé tantôt, en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. C'est vraiment quelque chose qui... la rédemption que Jésus a fait, ce rachat-là, à travers son sang, et c'est intemporel. Puis on ne peut pas dire, je vais payer pour mon salut. Quand on raconte l'histoire des 5 couleurs, on explique aux gens que on donne les objets pour rappeler aux gens que le ciel est gratuit. Puis tout à l'heure, il y avait un monsieur qui disait, « Ah, ben moi, j'ai fait telle affaire, puis je sais que je suis une bonne personne. » Non, non, c'est pour ça qu'on vous donne l'objet, pour que vous compreniez que tu ne peux pas rien racheter de tout ça. Jésus a tout payé. Il a tout payé. Si tu vas rajouter quelque chose, c'est une insulte. Puis la madame me regardait. Ouais, à cas ça, c'est bien vrai. Hein, il a payé cher. Il a été fouetté. Son dos était en sang. Il a reçu des coups, les couronnes d'épines, planté les clous dans les mains. Même avant d'être martyrisé, il a sué du sang par ses pores, les pores de sa peau, tellement la prière est intense. La bataille a commencé dans la prière avant cet événement-là. Donc, toute cette souffrance-là, c'est pour notre rachat. Mais s'il a payé tout ça, c'est vraiment une insulte que de dire, bon, je vais donner une petite pièce pour aller au ciel. Tout est payé. Tout est payé. Pour tout le monde, pour tous ceux qui l'acceptent, c'est payé. Puis il y a plusieurs passages. Il y a Tite 2, 14, dans Matthieu, dans Hébreux, dans Colossiens. Une autre de ses œuvres, et non la moindre, c'est son Église. Et oui, c'est pas nous autres qui bâtissons l'Église. C'est Jésus. Ce point d'enseignement est probablement celui qui a apporté le plus de controverses dans l'histoire avec celui de sa divinité. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église » en Matthieu 16, versets 18 et 19. Il ne s'agit pas d'un bâtiment, car le mot « Église » est « ecclésia », qui veut dire « assemblée ». Donc, des personnes qui, comme Pierre, seront appelées « pierres vivantes » dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, pour former une maison spirituelle sur le fondement qui est Jésus, le rocher, la pierre angulaire. Quand Jésus dit à Pierre, « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église », il y a 2 mots. Hein. Il a dit à Pierre, « Sur ce rocher, je vais bâtir mon Église. » Toi, tu es une pierre. Mais je vais bâtir mon église sur un rocher. C'est deux mots qu'il avait pris différents. En français, c'est Pierre, Pierre. Mais en grec, c'est deux mots différents. Il y a le rocher, qui est Jésus, et il y a la pierre, qui était une des pierres vivantes. Même, c'est Pierre lui-même qui parle de pierre vivante. Puis il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, en parlant des croyants. On est seulement un matériel pour la construction. L'Église, plus qu'un groupe, c'est une famille, une communauté liée par le sang, un organisme vivant et changeant, dirigé par son saint, son esprit. Elle n'est pas une institution humaine, une structure rigide et hiérarchique. Dans l'Église, il y a Christ et il y a les membres du corps. On peut être un doigt, on peut être une oreille, on peut être n'importe quelle partie du corps, mais on est seulement des parties de son corps. Lui, c'est la tête du corps. Et ça, c'est bien important de comprendre que l'Église, c'est pas... C'est beaucoup plus. Oui, il y a des organisations, je suis d'accord, il y a des structures et tout ça, mais c'est plus que ça. C'est au-delà de tout ça. Si j'accepte Christ, je suis déjà un membre de l'Église. C'est important, se joindre à un groupe, c'est évident, mais je suis déjà un membre de l'Église. On met beaucoup de contraintes, hein, souvent, dans l'organisation. On met beaucoup de contraintes, on met beaucoup de limites. Mais l'Esprit est libre de faire ce qu'il veut. L'Esprit est libre de construire, il est libre d'ajouter à l'Église. Jésus aussi travaille, et son œuvre, c'est dans les dons. Il y a différentes listes de dons dans le Nouveau Testament, on ne passera pas trop de temps là-dessus. Mais juste comprendre qu'il y a une variété de dons. Il y a des dons qui servent à édifier l'Église, puis il y a des dons qui servent à manifester la gloire de Dieu. Il y a des dons qui servent à... Des fois, on les perçoit presque pas, mais ils agissent quand même. On remet souvent en question la question de l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, pasteur, docteur et tout ça. Je ne veux pas entrer dans ce débat-là, mais je suis certain d'une chose aujourd'hui. On a autant besoin aujourd'hui, et peut-être même plus, de la prophétie, de l'habileté que Dieu a donnée aux hommes de recevoir de son esprit et d'apporter une parole fraîche. Pas contradictoire ou nouvelle par rapport à la Bible. La Bible est la base. Ça ne doit jamais contredire. Mais amener une vision, amener un rafraîchissement, une édification, une consolation, quelque chose qui va apporter quoi de fortifiant à l'Église. Dans l'aspect de révélation que Dieu peut donner à une personne, regarde, je suis en train d'apporter la parole. J'apporte quelque chose. Mais Dieu sert des personnes. Quand on témoigne dans la rue à quelqu'un, je me rappelle un jour, j'avais apporté l'histoire des cinq couleurs à un homme, j'ai déjà raconté, mais il y en a plusieurs qui ne l'ont jamais entendu. J'avais raconté l'histoire des cinq couleurs. Dans les cinq couleurs, justement, j'ai un petit bracelet ici. Le jaune, ça représente le ciel, hein, un endroit merveilleux. Puis, le monsieur qui était devant moi, cette fois-là, j'ai ajouté quelque chose que je ne dis jamais quand je parle des cinq couleurs, puis j'ai raconté l'histoire des centaines de fois. J'ai dit, la couleur dorée représente le ciel, un endroit merveilleux. Puis là, je suis arrivé à la couleur sombre, puis j'ai dit, la couleur sombre, ça représente le côté sombre de notre vie. On n'est pas... On ne peut pas entrer au ciel. La porte est fermée. Et quand j'ai dit ça, l'homme s'est mis à pleurer. J'ai resté un peu surpris. La dame qui était avec lui a dit, « Ah, continue ton histoire. » Elle a dit, « Il a vécu quelque chose, il va pouvoir te le raconter après. » Continue mon histoire des cinq couleurs. J'arrive à la couleur rouge. J'ai dit, « Le rouge représente... » J'ai demandé, on dit l'amour. Ça représente l'amour de Dieu, oui. Jésus a donné sa vie et c'est la solution hein, pour qu'on puisse aller au ciel. Puis j'ai dit, si tu acceptes son pardon, les portes du ciel sont ouvertes. Il se remet à pleurer. Là, j'ai mis dans ma tête qu'il y a quelque chose avec les portes, lui, là. Parce que c'est ça que je parlais du mot « porte du ciel », ça le touchait, puis il pleurait. Puis là, je l'ai laissé reprendre ses esprits, puis réussir à m'écouter. Puis là, j'ai expliqué que le verre représentait la croissance spirituelle. Puis là, j'ai dit, pouvez-vous me raconter votre histoire? Cet homme-là, son cœur avait arrêté de battre. Puis il l'avait réanimé à l'hôpital. Son cœur a arrêté de battre pendant plusieurs minutes. Puis pendant ces minutes-là, il dit qu'il y a eu comme une vision. Il dit, c'est comme si j'étais devant les portes du ciel. Des grandes portes, mais fermées. Il dit, quand tu as dit ça, il dit, ça m'a frappé. Parce que là, il se demandait toujours pourquoi les portes étaient fermées. Puis il a entendu une voix qui lui disait, tu vas retourner sur la terre parce que j'ai encore quelque chose à faire avec toi. Puis il se rappelait juste de ça. Il pensait dans sa tête pendant des années, il pensait que c'était pour ses enfants, il fallait qu'il les aide avant de mourir et tout ça. Puis là, il commençait à comprendre pourquoi les portes étaient fermées. Il ne pouvait pas entrer. Il n'était pas né de nouveau. Il n'avait pas été pardonné. Il n'avait pas donné sa vie à Dieu. Tout ça pour dire qu'au moment où j'ai annoncé un petit message de 2 minutes avec les 5 couleurs, l'Esprit m'a permis d'utiliser le mot « porte » que jamais j'utilise. Pour cette personne-là qui était devant moi et qui avait besoin d'entendre ce message-là, parce que lui avait eu une expérience vraiment spéciale dans sa vie. Et je crois que ça, c'est ça le don de prophétie. C'est ça d'être utilisé par l'Esprit pour apporter quelque chose au bon moment à la bonne personne. C'est pas nécessairement « Ainsi parle l'Éternel, voici, il y aura une famine de 3 ans. » Bon, tant mieux si... pas tant mieux si ça arrive, mais... ça peut arriver. Je ne veux pas dire que Dieu ne peut pas le faire. Mais soyons conscients que Dieu peut utiliser tout homme de toutes sortes de façons. Puis quand on parlait de méthode tout à l'heure, ça m'a fait penser, j'étais pour lever ma main, mais je t'ai laissé terminer. On parlait de méthode, puis il y a toutes sortes de méthodes. Mais Dieu, lui, c'est quoi sa méthode? Pas de méthode. Justement, il y a un passage dans les Chroniques de Narnia qui dit que Dieu, Aslan, le personnage qui représente Jésus, le lion, il utilise toujours des façons différentes. Il n'utilise jamais 2 fois la même façon. On ne retourne pas à Narnia 2 fois de la même façon, quelque chose comme ça. Puis c'est vrai que Dieu est un peu comme ça. Regarde juste les flocons de neige. Il y a quelqu'un qui en a photographié, je pense que c'est 20 000. Imagine, c'est long, hein, photographier 20 000 flocons de neige. Il voulait essayer de trouver une constante. Oui, il y a une constante dans les flocons de neige, mais il n'y en a pas un qui est pareil. Dans la même tempête de neige, tu vas photographier tous les flocons et tu n'en auras pas 2 pareils. Incroyable, hein? Ça, c'est notre Dieu. Un flocon de neige est unique. Puis pourtant, c'est juste de la neige. Imagine les êtres humains. Imagine son œuvre. On regarde juste la nature, puis on est émerveillé par l'originalité de tout ce qu'il fait. La même chose pour les dons. Dieu a une grande gamme de dons. Les listes qui sont là dans la Bible, je crois que c'est juste pour nous donner une idée de ce que Dieu veut faire. Mais il y a encore plus de choses que ça. Notre future demeure, c'est une œuvre de Jésus aussi. Jésus a dit à ses disciples, « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Jésus n'est pas en congé, là. Il est en train de nous préparer une place. Vous pensez à ça, là?
Un charpentier.
« Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est beau ça, hein? Il va revenir nous chercher. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. Ça, c'est dans l'Apocalypse. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Père, ainsi que mon nom nouveau. Donc, Jésus est en train de préparer la Nouvelle Jérusalem. Il est en train de préparer une place personnelle et en même temps à toute son Église. Ça dit aussi encore dans l'Apocalypse au chapitre 21, « Il y a une espérance pour le croyant, la ville sainte éternelle que Dieu est en train de préparer. » Une autre action, une autre œuvre que Jésus est en train de faire en ce moment, c'est sa prière. Jésus nous dit qu'il est en train d'intercéder pour son Église. Il n'a pas prié juste quand il était sur la terre. On voit le sermon, les prières et tout ça. Mais maintenant encore, il intercède pour son Église. Et ça, c'est un aspect important. qui ont témoigné de faire comprendre aux gens, d'expliquer qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y en a beaucoup qui ont élevé Marie comme co-médiatrice. Jamais on voit ça dans la Bible. Jamais. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, ça c'est dans 1 Timothée au chapitre 2. Un autre aspect qui est important, c'est quand Jésus prie, ou qu'il nous enseigne à prier, il nous enseigne à prier pas dans le « je », mais dans le « nous ». C'est dans le « notre Père », c'est pas « mon Père qui est aux cieux hein, ». Il dit à ses disciples « notre Père ». Parce qu'il aurait bien pu dire en tant que « fils de Dieu, mon Père qui est aux cieux ». Il dit à ses disciples, prions, apprenez à prier, mais c'est en disant « notre Père ». Et si vous remarquez, à plusieurs endroits où Jésus prie, c'est toujours le « nous »,« notre ». Il y a le sens, il veut nous inculquer le sens, nous apprendre le sens de la communauté, d'être ensemble. On est dans un monde où l'individualité, où le fait d'être le « je » est très important. On va seulement dans une épicerie, on va chercher un pain. Mon pain, c'est celui-là. Il y a à peu près 25 sortes de pain sur la première rangée, de nous autant sur la deuxième rangée. Avant, il y avait du pain blanc, puis il y avait du pain blanc tranché. Ah, tout d'un coup, on fait du pain brun. Ah, OK, on a du pain brun maintenant. Je me rappelle, on était tout petit. Il y avait du pain blanc tranché, puis du pain brun. Puis après ça, il y a eu du pain brun tranché aussi. Aujourd'hui, on va voir dans les épiceries, il y a du pain de toutes les sortes. Des grains anciens, ils mettent tellement de choses dans le pain maintenant que ça ne ressemble même plus à du pain des fois. Le choix, hein? On est unique, mais là, à un moment donné, c'est un peu trop, là. Jésus veut qu'on soit unique, mais veut qu'on soit ensemble. Je bâtirai mon église, mon assemblée. Il y a l'idée qu'on est ensemble dans une église. Et trop souvent, ce qui se véhicule, même dans les églises évangéliques, c'est le « je ». Et j'écoute souvent les chansons gospel chrétiennes et tout ça. C'est « je ». Attention, je ne vois pas si souvent que ça dans les évangiles, le « je ». C'est le « nous ». Le « nous ». Son dernier commandement, ça c'est important aussi. Tout est important qu'on parle de Jésus, c'est pas compliqué. Mais son dernier commandement, cet ordre nous a été donné au moment de son départ pour le ciel, avant de nous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Il a donc toute la force d'un testament légal et moral. Dans Matthieu 28, il dit, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne dit pas, je suis avec toi, je suis avec vous hein, encore. Il ne dit pas, Seigneur, c'est le dernier commandement qu'il a donné à son Église, à ses disciples, et à nous autres aussi. Si ce n'était pas important d'évangéliser, il aurait dit autre chose, le plus important. Il finit, puis il leur dit ça. Je me semble, je bâtis un bâtiment quelque part, là. Je suis un architecte ou un constructeur. Je dois partir pour aller visiter un autre chantier, puis je dis à mes hommes, ben, oubliez pas de faire telle chose sur le bâtiment. Puis je pars pendant un an. Mettons, gros bâtiment, c'est long à bâtir. Quand je reviens au bout d'un an, s'ils n'ont pas fait ce que j'ai demandé, mes employés vont avoir un problème. Je demande une chose, je leur donne un an pour le faire et ils ne l'ont pas fait. Et souvent, je ne veux pas critiquer ici, mais je me sens un peu interpellé avec ça, puis je vois l'Église, puis je me dis, est-ce qu'on est en train d'oublier quelque chose de super important? L'ordre du Seigneur ici. D'aller, de faire toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, leur enseigner de mettre en pratique tout ce que je vous ai commandé. Des fois, on met l'emphase sur enseigner, mais d'aller, puis de faire des disciples, aller puis évangéliser, aller puis amener les gens à Christ, proclamer le salut. C'est ça qu'il nous demande de faire. Pas juste s'entretenir les uns les autres dans notre petite bâtisse puis à être tranquille, mais d'aller. L'apôtre Paul dit, « J'ai été chargé d'amener ce que Dieu a choisi à la foi et à la connaissance, ce que Dieu a choisi à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. » Dans Tite, au chapitre 1, verset 1. Paul lui-même était chargé, il se sentait chargé d'amener ceux que Dieu a choisis. On en parlait après-midi, puis on pourrait dire, pas nécessaire d'évangéliser. Dieu les a choisis. Tôt ou tard, ils vont accepter le Seigneur. J'ai rien à faire. Il y a eu une époque dans l'Église où c'était comme ça, puis je crois que des fois, ça revient un peu, là. On dirait que, pas de problème, hein? Dieu va s'en charger. Il y en a 7 millions au Québec qui n'ont pas entendu encore l'Évangile. Des fois, on a l'impression d'être 700 à partager l'Évangile. Mais Paul, apôtre, chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, une grande connaissance de l'Ancien et du Nouveau Testament, il l'écrivait, rempli du Saint-Esprit, il est allé vers les gens que Dieu a choisis pour les amener à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Si lui le faisait, je pense qu'il faudrait que je le fasse moi aussi. Ou nous aussi. Mais nous, hein? Pas juste moi. Surtout pas juste moi. Vous n'allez pas être tout seul. Des fois, on se sent seul. Mais il ne faut pas se décourager. On n'est pas seul. C'est toi, Benjamin, qui me racontais qu'à un moment donné, tu avais rencontré quelqu'un qui faisait du porte-à-porte dans un village sur la côte nord. Hein? Oui. C'est spécial parce qu'il y a plein de gens qui font des choses.
Parce que le bloc était barré, mais moi, j'avais les clés.
OK.
Je faisais le ménage.
Dieu avait placé un ouvreur de porte. on ne réalise pas à quel point l'Esprit a vraiment une armée en action. Mais ce n'est pas une excuse pour dire, s'il y a une armée, je n'ai pas besoin de rien faire. Il faut y aller. C'est nous l'armée. Hein? Une autre chose que Jésus... Des fois, les gens se découragent. Ils regardent l'époque. On est en 2017. Jésus n'est pas revenu encore. Quand j'ai accepté le Seigneur en 83, on nous disait, Claudine était enceinte, puis elle nous disait, il ne faudrait pas avoir trop d'enfants parce que le Seigneur va revenir bientôt. Je ne vois, pas le lien, là, mais ça ne sert à rien, on va être enlevé. En tout cas, je n'ai jamais trop compris ce qu'il voulait dire. Là. Mais une chance qu'on ne les a pas écoutés parce que Benjamin ne serait pas là. Une mauvaise compréhension du retour du Seigneur, hein? Oui, Jésus revient. On ne sait pas quand il va revenir. Mais si je meurs demain matin, pour moi, il va revenir demain matin. Hein, c'est imminent de toute façon. Je ne vivrai pas 1000 ans, là. Puis, ce qui est important, c'est de réaliser qu'il faut toujours être prêt. Mais oui, Jésus revient. Et dans la parole, ça dit... Et si on va lire dans Jacques, ça dit... Jacques, chapitre 5. « Soyez donc patients. » Il a écrit ça il y a 2000 ans. Mais moi, je n'ai pas 2000 ans. Je peux dire qu'il faut que je sois patient aussi. « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui. » jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Si Jacques, il y a 2000 ans, disait « Le retour du Seigneur est proche », il est encore plus proche pour nous autres. On ne peut pas faire autrement. Je conduis une voiture à 100 km/h dans le brouillard total. Puis, v'là 2000 ans, quelqu'un dans la même voiture, à 100 km/h, dans le même brouillard, disait « Il y a un mur de ciment en avant. On va le frapper bientôt. Préparez-vous. Attachez votre ceinture. » On est 2000 ans plus tard dans la même auto qui roule à 200, à 100 km, peut-être 200 aujourd'hui, oui. Le mur est toujours en même place. On est 2000 ans plus proche. Puis on a l'audace de dire, oh, pour moi, il ne reviendra pas. Ben là, on est encore plus proche. J'espère que ce n'est pas dans 1000 ans. Ce n'est pas grave. Je ne vivrai pas 1000 ans. Hein? On n'a pas... Vous savez, le monde a une façon de voir les choses qu'on ne doit pas, nous autres, copier. On ne doit pas chercher à copier le monde. Et c'est souvent ça que, malheureusement, l'Église a tendance à faire. Si le monde est rendu à une certaine profondeur dans le péché et tout ça, l'Église est au-dessus, oui, elle est plus sainte que le monde, mais elle descend avec pareil. Elle a tendance à suivre le monde. Hein? Le monde va descendre à 1000 pieds de profondeur, bien, l'Église va être à 800 pieds, juste au-dessus. Il va être à 300 pieds, bien, elle va être à 100 pieds, juste au-dessus, tout le temps. C'est plate un petit peu. C'est pas le monde qui doit être notre référence, mais Christ. Christ, il dit, regarde en haut. Regarde pas dans le fond du trou, là. Regarde en haut. Notre exemple, c'est Jésus lui-même. Par rapport à son retour, la question du retour du Seigneur est d'autant plus importante maintenant que nous avons commencé le 21e siècle. Plusieurs se sont découragés et ne croient plus à son retour. C'est l'apôtre qui nous donne encore une exhortation qui est encore bonne aujourd'hui. Il dit aux chrétiens de Thessalonique, il dit, « En ce qui concerne le retour du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe. » Donc, ils savaient déjà à cette époque-là, les apôtres, les serviteurs de Dieu, les chrétiens, plusieurs en tout cas le savaient, puis ils avaient à l'enseigner aux autres que ce n'était pas tout de suite. Il y avait des choses qui devaient se passer avant. « Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord, et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore, ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. » Si on ne l'a pas vu encore. Et si on ne l'a pas vu, ben, il faut attendre. Ce n'est pas arrivé. Si c'était arrivé, ben oui, peut-être qu'on pourrait se décourager un peu. Si ça faisait des milliers d'années que c'était arrivé, non, ce n'est pas arrivé encore. Il y a un aspect important aussi, qui est souvent négligé à notre époque. Des fois, j'ai entendu des enseignements par rapport à l'évangélisation, d'éviter de parler du jugement à venir. Comme s'il fallait annoncer l'Évangile, une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi, tu vas être sauvé. Savez-vous, c'est quoi ma réaction, moi, quand on m'a dit que j'étais sauvé? J'ai dit, sauvé de quoi? Parce que je ne savais pas qu'on s'en allait en enfer. Je savais que j'avais besoin d'être sauvé, que Jésus me sauvait et tout ça. Mais quand il m'a dit, félicitations, tu es sauvé. Sauvé de quoi? Personne ne m'avait parlé de l'enfer. Heureusement, là, ils me l'ont dit. Là. Il m'a dit, mais tu t'en allais en enfer. Ah oui? Ah, peut-être que j'aurais accepté avant. Je n'aurais pas réalisé que je m'en allais en enfer, là. heureusement, l'Esprit m'avait convaincu, à, même sans la notion de l'enfer. Mais je crois qu'on ne doit pas négliger ça. Il ne faut pas faire peur au monde constamment avec l'enfer, c'est certain. Mais si on veut parler d'une bonne nouvelle, je pense qu'on ne peut pas faire autrement que dire qu'il y en avait une mauvaise, qu'on s'en allait en enfer. Puis si on regarde aux enseignements dans les évangiles et dans les épîtres, ils ne se gênent pas d'en parler. Jésus lui-même, il dit, et quand il sera venu, le défenseur ou le consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il ne faut pas parler de péché. Jésus n'a parlé. La justice et le jugement. Jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, il y a un aspect de notre vie qui peut passer sous silence. L'aspect du jugement. Qu'on va passer au jugement. Et si on n'accepte pas Christ, on ne pourra jamais payer pour passer au ciel. C'est Christ qui a payé. C'est gratuit, mais ça a coûté cher à Jésus. En conclusion, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Il est bon, en effet, que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont été d'aucun profit à ceux qui s'en sont fait une règle. S'il est éternellement le même, ses paroles sont toujours bonnes aujourd'hui. La parole de Dieu doit toujours nous inspirer. Il est primordial de toujours lire et étudier les enseignements en s'appuyant sur la Bible et en mettant les versets dans leur contexte. Et c'est ça qui, souvent, va faire des nouvelles doctrines, des faux enseignements, des ci, des ça. Les gens vont prendre le verset, « Ah, c'est bon! » Puis là, on va l'amener dans un enrobage, un emballage, une prédication, un enseignement, un livre. Puis ils vont nous amener une autre doctrine. Ça commence assez doucement au début. On va penser au purgatoire, par exemple. Il y a une personne qui me disait aujourd'hui, la couleur sombre, c'est le purgatoire. Monsieur, purgatoire, c'est pas dans la Bible. Ah non? OK. Mais où est-ce qu'ils vont les bébés qui n'ont pas été baptisés? C'est dans les limbes, hein? C'est pas dans la Bible non plus, ça, monsieur. Ben voyons, ils nous ont dit, ben là, on peut dire bien les choses, mais il faut aller voir par vous-même. Allez voir par vous-même. La Bible, elle a été écrite, on peut la lire aujourd'hui dans nos langues, dans notre langue. Puis je vous encourage à la lire. Cherchez, lisez-la. Purgatoire, ça a été inventé pour bâtir des cathédrales. Ah, le pauvre monsieur, madame, votre mari, il est venu se confesser, puis je vous dis que... il n'ira pas au ciel tout de suite. Ouais, mais mon pauvre défunt, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, ben là, si vous nous donnez de l'argent, on va faire en sorte qu'on va élever des prières pour qu'il passe moins de temps au purgatoire. Purgatoire, c'est quoi ça? Puis là, ils ont expliqué c'était quoi? Ah, ça a bien de l'allure. Ça a bien de l'allure. Mais savez-vous, le purgatoire est meilleur que le sang de Jésus? Si le sang de Jésus n'a pas permis que cet homme-là soit sauvé, le purgatoire ne sera pas capable non plus. C'est une insulte encore au Seigneur. C'est par le sang, c'est en croyant au sacrifice de Jésus qu'on est sauvé, pas en passant du temps à souffrir. Encore là, on paierait pour aller au ciel. C'est faux, c'est totalement faux. Puis j'ai répété à cette personne-là, j'ai dit, on vous donne les objets pour vous rappeler que le salut, le ciel, c'est gratuit. Il a tout payé. Il a tout payé. Il n'y a plus rien à payer. C'est une insulte que de dire qu'on va mener une bonne vie ou que je vais payer des messes aussi ou ça pour aller au ciel. Ça ne marche pas. Mais tout ça, ça a été glissé. Ils ont pris des passages dans des apocryphes, en fait. Puis ils ont tordu ça un peu, ils ont mélangé ça avec un peu de prophète de l'Ancien Testament, puis whoop-a-la, ça sort. Belle petite doctrine qui rapporte beaucoup. Ça paraît anodin, puis souvent ça paraît bien. Puis ça nous fait sentir mieux. Remarquez, là, souvent les fausses doctrines nous font sentir mieux. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on se sente mal. Qu'on se sente mal et qu'on ait besoin de son pardon. Si je me sens mieux par mes efforts, on passe à côté, là. On passe carrément à côté. Il veut qu'on se sente tellement mal, qu'on sente tellement notre condition corrompue, qu'on ait absolument besoin de son salut. Chaque livre de la Bible a aussi été écrit dans un but et un contexte historique, géographique, politique et personnel aussi. Chaque auteur avait une personnalité. L'Esprit respecte même l'auteur qui écrit. L'étudiant de la parole de Dieu doit toujours considérer que le texte biblique est un tout. On ne doit pas retrancher ni ajouter à ce que l'Esprit a inspiré aux auteurs. Ce que la Bible dit dans un verset, ça doit être pris dans le contexte où l'auteur a écrit. À l'époque, à quel moment est-ce qu'il a écrit ça? À qui il s'adressait quand il a dit ça? Et puis, est-ce que ça vient compléter la Bible ou ça contredit la façon que je le lis? Parce que si on comprend un passage et que ça contredit d'autres choses dans la Bible, on a un problème. Parce que la Bible ne se contredit pas. C'est la vérité. Et ça, c'est merveilleux. Hein? On a la vérité. Ça peut paraître prétentieux, mais ce n'est pas nous autres qui le dit. C'est Jésus qui m'a dit de le dire. Vous avez vu, c'est annoncé à la télévision. Jésus nous a dit de le dire, que c'est lui la vérité. Amen. J'ai dit que c'était la conclusion, fait qu'on va arrêter. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? On va aller en bas, OK.